je tiens d'abord à remercier le collectif des associations de Saint-Étienne de nous avoir invités collectivement. Oui, je crois que si je devais en croire déjà un certain type de discours médiatique et d'intellectuel, je serais coincé entre un lapidateur de femmes et un président d'association antisémite. Or, je n'aime ni les lapidateurs et ni les présidents d'associations antisémites, et donc je ne serais pas venu si j'avais cru, malheureusement, ce type de discours. Ouais, moi, je dirais que je commencerai par une note assez pessimiste. C'est vrai qu'on peut être désolé aujourd'hui du débat actuel qui est profondément malsain. Une sorte de partie de tennis où on se renvoie comme ça à la face. Toi, t'es antisémite, toi, t'es islamophobe. Non, toi, t'es antisémite. Non, t'es pas antisémite, mais tes propos sont antisémites. Non, toi, t'es pas islamophobe, mais tes propos sont islamophobes. Une sorte de débat malsain dans lequel, finalement, il faut bien l'avouer, la raison, la réflexion, la distance a peu de place. Et comme le rappelait très justement Mouloud, aujourd'hui, quand on parle d'islamophobie, on est souvent accusé de faire le jeu de certains types de fondamentalisme et d'extrémisme, et à tel point que même on dit l'islamophobie serait une invention des islamistes. Alors on fait remonter ça à la révolution islamique d'Iran de 1979, donc j'en conclus que le MRAP travaille à la solde des organisations islamistes, que moi, sociologue du CNRS et enseignant à l'Institut d'études politiques, je suis probablement payé, d'ailleurs je vais repartir en Rolls tout à l'heure, je vais dormir dans un hôtel 5 étoiles, pas à Saint-Étienne mais à Lyon, par l'Arabie Saoudite pour défendre des thèses islamistes. Non, voyez, le débat est délirant, mais c'est vrai qu'on peut sourire, c'est vrai, mais c'est ça. Je lis tous les jours, parler d'islamophobie, c'est être objectivement complice des islamistes, des terroristes et de Ben Laden. Donc vous avez devant vous aujourd'hui un complice de Ben Laden qui vous parle. Ah oui. Alors, soyons plus sérieux, parce qu'il fallait commencer par l'humour. Je dirais qu'il faut éviter effectivement, et là je reçois les critiques, il faut éviter de tomber ce qu'on pourrait appeler dans la martyrologie musulmane. D'abord, les musulmans sont aujourd'hui en France, dans leur très grande majorité, des citoyens français. Ils n'ont pas besoin de Christian Zuber et de 30 millions d'amis pour les défendre. D'accord? Je dirais qu'ils peuvent se défendre et ils peuvent réagir. Donc la martyrologie genre les pauvres petits musulmans, ils sont victimes du racisme anti-musulman. Moi, j'ai l'habitude... Maintenant, il faut dire d'être invité par des associations musulmanes, elles ne sont pas toujours musulmanes, mais entre autres, et je trouve suffisamment aujourd'hui de jeunes Français et Françaises de culture musulmane qui savent manier le verbe pour se défendre. Donc moi, quand j'ai voulu parler de nouvelle islamophobie, c'est pas pour dire « oh les pauvres, ils sont atteints par le racisme anti-musulman », c'est pas mon genre, et je dirais que cette posture victimisante ne sert pas les musulmans. Mais il ne faut pas non plus tomber, je dirais, dans... On peut le dire d'une certaine manière, l'autre extrême, qui est de dire finalement, oui, ils sont des pauvres, des banlieues, et puis finalement ils sont victimes d'un racisme. Bah, c'est le racisme qu'on a toujours connu, il a touché les Polonais, les Italiens, maintenant il touche les Arabes, les immigrés, les Maghrébins. Oui, il y a toujours, comme le rappelait Mouloud Aounit, un racisme anti-arabe, anti-maghrébin, anti-jeune français. D'origine arabe, d'origine maghrébine, mais il y a aussi, il faut le reconnaître et l'admettre, des manifestations qui visent les musulmans parce qu'ils sont musulmans. Et pas seulement parce qu'ils sont d'origine ou qu'ils sont enfants d'immigrés. Il y a aussi dans ce racisme, dans cette peur et dans cette haine, une part, une certaine autonomie de ce qu'on pourrait appeler le registre anti-musulman. Quand vous vous appelez David, Cohen, Ali, converti à l'islam et que vous êtes frappé d'insultes, toi le barbu foulcan, c'est pas parce que vous êtes d'origine arabe, encore David, Ali, Cohen, ça pourrait être aussi d'origine arabe, mais c'est parce que vous êtes bien musulman. Donc à ce niveau-là, il y a bien une forme d'islamophobie, en dépit de ce que dit le vice-président de l'Assemblée nationale, M. Barouin, en dépit de ce que dit Claude Imbert, il y a en France aujourd'hui des formes d'expression de la peur, du rejet et de la haine qui touchent les musulmans parce qu'ils sont porteurs d'une croyance et d'une foi. Et ça, je veux dire, de le dire, ben oui, de le dire aujourd'hui, c'est être considéré comme un gentil sociologue ou un gentil président d'association à la solde des islamistes et de Ben Laden. Alors, revenons maintenant, pourquoi parler d'islamophobie? Je dirais que moi j'ai voulu, et c'est pas seulement moi, mais aussi un certain nombre d'auteurs, ont voulu parler d'islamophobie pour souligner une double évolution. La première, une évolution du rapport de la société française, ou plus généralement des sociétés européennes, mais en particulier de la société française, à l'égard du fait musulman. Et un deuxième type d'évolution, c'est ce que j'appellerai l'évolution des formes du racisme. Premier type d'évolution, le rapport de la société française au fait musulman. On peut dire que jusqu'à une période contemporaine, on va dire 18e siècle, le rapport ou l'imaginaire français à l'égard des musulmans et de l'islam en général est dominé par ce qu'on pourrait appeler le complexe théologique chrétien. L'islam, c'est cette religion qu'on ne considère même pas vraiment comme une religion, c'est cette secte obscurantiste, archaïque, fondée par un certain Mahomet, auquel on refuse d'ailleurs de donner le nom de prophète, mais qu'on considère comme fou, comme usurpateur, imitateur, plagieur du judaïsme et du christianisme. Donc on peut dire que jusqu'à une période récente, après tout le XVIIIe siècle n'est pas aussi éloigné que ça, finalement notre imaginaire européen et notre imaginaire français est dominé par, je dirais, cet imaginaire de lutte entre djihad et croisade. Mais je dirais qu'aujourd'hui, si on parle d'islamophobie, c'est précisément pour souligner une certaine rupture par rapport à cet imaginaire chrétien. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, précisément, l'islamophobie soit le produit d'une sorte de guerre civilisationnelle opposant la religion chrétienne à la religion musulmane. Et d'ailleurs, il y a à voir dans les faits, les milieux chrétiens pratiquants ne sont pas forcément, il faut bien le dire, les plus islamophobes. Et ils auraient même plutôt tendance à prôner des solutions de dialogue que nos intellectuels laïcs qui s'enfermeraient plutôt vers des solutions qu'il faut bien appeler des solutions de fermeture. Précisément, la période où on a assisté à ce basculement en ce qu'on pourra appeler le racisme anti-musulman, cet anti-mahométisme dominé par la figure de Mahomet, cette figure qui était une figure négative dans l'imaginaire chrétien, précisément la période de basculement, c'est la période coloniale. Car ce n'est pas au nom de l'idéologie chrétienne qu'on est allé conquérir les territoires d'outre-Méditerranée, du Maghreb, d'Orient ou d'Afrique noire, mais c'est précisément au nom de cette idéologie, de ces principes qui, quelque part, sont les nôtres et que nous revendiquons, la République, le progrès, l'universalité, ces idéaux nobles. Nobles, j'y crois quand je dis qu'ils sont nobles. C'était l'idée qu'il fallait aller coloniser pour apporter la lumière à ces peuples indigènes, sous-développés, bercés d'obscurantisme et d'archaïsme. C'était l'idée que, mais oui, c'est ça peut-être l'aspect généreux, bien sûr, c'est peut-être aujourd'hui ça nous fait sourire, que ça prendrait du temps, mais quand même que ces indigènes, on arriverait un jour ou l'autre à en faire des citoyens comme tout le monde. Et précisément dans cette idéologie républicaine, à la Jules Ferry, qui avait une phase universaliste et quelque part, entre guillemets, généreuse, il y avait aussi une idée centrale que l'on retrouve aujourd'hui de manière récurrente dans les débats. C'est que oui, ces peuples, on pourra les élever à la modernité, à l'universalité, à la lumière, mais il y a un obstacle à cette élévation vers le progrès et la modernité, c'est leur religion, c'est l'islam. La pensée républicaine est dès le départ, comme l'ont très bien montré certains historiens comme Claude Diosu, une pensée qui voit dans l'islam un obstacle au progrès, un obstacle à cette montée vers l'universalité, un obstacle, en gros, à la montée vers la civilisation. L'islam, dans cette pensée républicaine, jusqu'à une période très récente, est perçu comme un facteur d'archaïsme, d'obscurantisme, de répression et bien sûr de soumission de la femme. Oh, ces pauvres musulmanes d'Algérie, du Maroc et de Tunisie, face à ces barbares d'hommes qui les soumettent, qui les enferment, qui les voilent. Ça ne vous rappelle rien ce discours ? Période coloniale, et aujourd'hui, discours sur le voile, oh les pauvres filles voilées, qui sont soumises par leur père, leur frère, ou si ce n'est pas leur père, leur frère, c'est l'imam du quartier, oh les pauvres, moi, le républicain éclairé, philosophe, homme politique, chère jeune fille, je vais vous libérer. Ça ne vous rappelle rien ? C'est exactement le discours que l'on a aujourd'hui sur le foulard, à faire pleurer la France, à nous faire croire qu'aujourd'hui, un certain nombre de musulmanes ne seraient que des filles soumises et cloîtrées. Et je dirais que, précisément, aujourd'hui, nous sommes au cœur de ce paradoxe de l'idéologie républicaine qui a de nobles ces idéaux que je répète, que je revendique, qui sont celles du progrès, de l'universalité, de l'égalité, de la liberté et de la fraternité, mais qui en même temps a ce défaut et cet orgueil. J'étais encore en Italie, j'étais interpellé sur ça, toi le français, de vouloir libérer tous les peuples de la planète, de s'imaginer que nous, français, bien blancs, bien républicains, il faut libérer les musulmans parce que, parce qu'ils sont musulmans, ils ne sont pas encore tout à fait citoyens. Donc il faut leur enlever leur dernière part, leur dernière tâche, leur dernière particularité d'islamité. Chers musulmans, soyez musulmans, mais pas trop, parce que si vous l'êtes trop, vous ne pouvez pas être pleinement citoyens. Et je dirais que nous sommes aujourd'hui au cœur de cette contradiction, de cette ambivalence, de cette ambiguïté de l'idéologie républicaine auquel j'adhère, mais qui se pose comme libératrice de ces pauvres petits musulmans dominés consciemment ou inconsciemment par l'obscurantisme et l'archaïsme des imams, mais d'une manière plus générale de leur religion. Premier type d'évolution. Deuxième type d'évolution, donc ça c'était du rapport de la société française, ou même on pourrait dire de l'imaginaire français par rapport aux faits musulmans, c'est l'évolution par rapport aux formes du racisme. Alors là aussi, avec Mouloud Aounik, nous avons entendu, ces deux-là, quand ils parlent d'islamophobie, ça veut dire qu'il n'y a plus de racisme anti-arabe. Alors c'est rigolo, parce qu'aujourd'hui, des gens comme Alain Finkielkraut, avec qui j'étais encore il y a deux semaines sur un plateau, disent « Ah mais monsieur Gisser, c'est honteux, vous niez qu'il y a un racisme anti-arabe ». Ah tiens, merci Finky de parler de racisme anti-arabe, ça me fait plaisir de t'entendre. Mais oui, ben, j'ai jamais dit ça. Nous n'avons jamais dit ça. Nous sommes conscients qu'aujourd'hui, la France fonctionne bien selon un système de discrimination, ou si tu as la peau noire, ou si tu as la peau, on ne sait pas quoi dire, hein, mi-noire, mi-blanche, ou carrément blanche, ou si tu as un nom à consonance maghrébine, mashrekine, africaine, on sait qu'aujourd'hui, tous ces signes d'appartenance sont aussi des signes d'enfermement et de discrimination. On n'a jamais nié ça. Mais ce qu'il faut bien reconnaître, c'est qu'aujourd'hui, et Mouloud Aounik, je ne vais pas m'attarder, l'a bien dit, c'est que parmi les facteurs, les vecteurs de la discrimination et du racisme, se greffe un registre qui est celui de la peur et du rejet de l'islam, qui très vite se transforme par un processus de généralisation en peur des musulmans, qui soient d'ailleurs musulmans se revendiquant comme tels, ou musulmans tout simplement parce qu'ils sont nés, entre guillemets, dans une famille de culture, d'origine musulmane, comme vous le voulez. Je dirais que là aussi, profonde ambiguïté, profonde ambivalence, la France, actuellement, il est vrai, accepte parfaitement que l'on puisse être musulman et français. Français et musulman. Je dirais que par rapport, par exemple, à l'Allemagne, nous n'avons aucun problème à reconnaître qu'il y ait des gens qui soient de religion musulmane, ou de culture musulmane, et qui soit en même temps nationalité française. Mais ambivalence de l'idéologie républicaine, oui, vous pouvez être musulman, mais attention, musulman comme nous l'entendons, musulman comme nous le voulons. Vos mosquées, oui, je suis maire de la commune de Marseille, oh, c'est très bien, une grande mosquée pour Marseille, mais surtout, qu'elle ne soit pas trop visible, hein, et puis qu'elle soit conforme à l'architecture musulmane, et le conseil général, et les églises, et le siège de telle ou telle grande entreprise privée ou publique, elle est conforme à l'architecture provençale, elle est conforme à l'architecture lyonnaise. Ah oui, mais la mosquée, elle doit être conforme à l'architecture provençale. On aurait pu dire à l'architecture républicaine. Au moins, il aurait tapé plus juste. Exactement pareil, tout le débat que nous avons aujourd'hui. Oui, on aime bien les musulmans modérés. Oh, ils sont gentils, ils parlent bien, ils font des serments de paix. Ah, et puis ce qui est bien, c'est qu'ils passent leur temps à dire du mal des méchants musulmans. Aujourd'hui, pour être reconnu dans le champ public ou dans le champ médiatique, non, pas trop de barbe. Hein. Si vous avez la barbe, il faut qu'elle soit quand même pas trop longue. Pas trop longue. Et puis, non, parce que si elle est trop longue, vous comprenez, ça peut poser problème. Et puis, pareil, mes jeunes filles, bon, c'est vrai, écoutez, vous croyez, vous avez la foi musulmane, mais portez pas le foulard, ce signe de soumission, cet enfermement. Non, on va croire que vous êtes manipulé. D'ailleurs, on croit quelque part que vous êtes manipulé. D'ailleurs, je peux vous le dire, hein, franchement, je crois que vous n'en avez pas conscience, mais vous êtes manipulé. Ah oui, parce que vous êtes étudiante, bachelière, bac plus 1, bac plus 3. Certaines d'entre vous font même des études de psycho, mais vous êtes manipulé. Ça, je peux vous le dire. Hein. Ah oui, je suis républicain, laïque, bien blanc, philosophe, non, je ne suis pas philosophe, je monte, sociologue, mais oui, vous êtes manipulé. En revanche, une jeune fille, les cheveux longs, maquillée, qui passe son temps à dire oh, « Oui, j'ai peur de l'islam, l'islam me fait peur, mon frère est un violeur, mon père est un violeur, les cités sont devenues des endroits où on ne peut plus circuler. Ah. » Elle est bien, cette fille, elle est extraordinaire. Je vois là une musulmane modérée et ouverte. Ah, moi, j'aime pas. Mais j'ai l'air de plaisanter, mais le drame, c'est que la plaisanterie que je suis en train de faire, c'est ce qu'on lit tous les jours. Ah, qu'elle est bien, cette pauvre fille. Ah, qu'elle est extraordinaire. Ah, qu'il est bien, ce moufti, qui a les yeux verts, qui boit de temps en temps. Ah, lui, il est intégré. Lui, c'est un musulman modéré. C'est soyez... tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, non. Non. Les hommes politiques, les philosophes, les sociologues, c'est pas l'islam qui rejette. C'est les musulmans fondamentalistes. Quoi? Les musulmans musulmans. Donc aujourd'hui, finalement, être musulman musulman, croyant pratiquant, eh ben, c'est pas être un musulman comme l'entend dire ou comme le souhaitent nos penseurs, nos philosophes, nos politiques, pour être un musulman reconnu, respecté. Il faut être un musulman laïque, soit musulman, mais pas trop musulman. Vous voyez, c'est pas facile, hein, j'avoue. Alors, revenons sur ce débat. Je crois qu'il y a un débat qu'il ne faut pas esquiver et qui est extrêmement compliqué, c'est le débat sur la laïcité. Nous n'avons jamais dit, et je dis nous parce que je crois que sur cette table, au-delà de nos différences philosophiques, religieuses, nous avons, je peux dire nous, parce que je crois que nous sommes d'accord sur ce point, nous n'avons jamais dit qu'aujourd'hui, les laïcs, ou la défense de la laïcité, et même être contre le foulard islamique, était assimilé à une position islamophobe. Moi, je pense que l'on peut très bien être contre le port du foulard dans les établissements publics, même si ce n'est pas ma position, c'est un débat qui à sa place. Après tout, on peut croire que tout d'un coup, il y a une sorte de prise de conscience, de sursaut républicain qui fait qu'un certain nombre de penseurs éclairés nous disent dans les établissements publics, ni croix, ni kippa, ni foulard. Très bien. Très bien. C'est des bons républicains. Ils dénoncent la croix, le foulard, la kippa. Ils veulent éradiquer tout signe de religiosité dans les établissements publics. Mais soyons honnêtes dans ce débat. Prenons le temps d'écouter, de mesurer, de quantifier. On commence à nous parler de la défense de la laïcité, allez, soyons gentils, pendant 15 secondes. Hein? Donc, philosophe invité sur un plateau de télévision, homme politique discourant devant l'Assemblée nationale, il faut défendre la laïcité. 15 secondes. 15 secondes plus tard, on nous parle de l'islam. Ah, laïcité, islam. Tiens, déjà. Glissement sémantique, là, la kippa et la croix, on n'en parle plus. La médaille de baptême, c'est vrai que c'est tout mignon, là. Attends, c'est vrai que ça fait moins peur. Puis 10 minutes, alors non, pas 10 minutes, donc 15 secondes encore après, on nous parle de filles voilées. Laïcité, islam, filles voilées, puis de filles manipulées, puis 15 secondes encore plus tard de fondamentalisme, d'intégrisme, et puis on en finit, finalement, sur le débat sur l'islamo-terroriste et Ben Laden. Le débat d'aujourd'hui, oui, un débat sur la laïcité, oui, un débat sur la défense du service public, mais par pitié, pas d'hypocrisie. Lorsqu'on est incapable de tenir plus de 15 secondes sans parler de laïcité, et immédiatement après de nous parler d'islam, de voile, de fondamentalisme et d'islamisme, et de terrorisme, c'est d'abord mettre un signe égal ou presque égal entre ces phénomènes et c'est faire preuve d'une très mauvaise foi qui, celle-là, n'est pas républicaine, mais je dirais, est contre nos idéaux démocratiques. Et je dis qu'aujourd'hui, ce que nous vivons, ce n'est pas un sursaut de la laïcité, ce n'est pas un sursaut de l'idéologie républicaine auquel j'adhère profondément, mais c'est une idéologisation de la laïcité, c'est une utilisation de la laïcité pour masquer une peur, voire pour masquer une forme de xénophobie de petits blancs qui a peur de ces musulmans qui sont venus d'un autre monde, à tel point que même quand ils sont français, on les fait venir d'un autre monde. Vous savez, c'est comme les extraterrestres, puisqu'on n'en a pas, il faut bien les inventer. Alors je dirais, pour finir, parce que il commence à vraiment en avoir, je me situerai tout à fait en tant que chercheur dans la perspective qu'a dit Mouloud Aounite. Je crois qu'il ne s'agit pas de faire du communautarisme, comme je vous l'ai dit, misérabiliste, en disant les pauvres petits musulmans, il faut les défendre. Non. Je crois qu'aujourd'hui, la dénonciation du racisme en général et de l'islamophobie en particulier est un combat citoyen, est un combat laïque, est un combat démocratique contre une société policière, repliée sur elle-même, où l'on veut nous faire croire que la bonne communauté, c'est cette communauté de gens qui ne prient pas, qui ne sont pas trop bronzés, qui boivent un peu d'alcool, qui mangent un peu de cochon. Ben non. La France du XXIe siècle, c'est une France, je dirais pas diverse. C'est une France de citoyens qui croient ou qui ne croient pas. Et aujourd'hui, on veut nous ramener en arrière, on veut nous faire régresser. Et je dirais que c'est exactement comme le combat qu'ont pu avoir certains de nos pères, nos grands-pères, grands-mères, dans l'entre-deux-guerres. Finalement, Dreyfus, on le combattait parce qu'il était juif, mais lui-même ne savait pas qu'il était juif. Aujourd'hui, à force de combattre certains musulmans parce qu'ils sont musulmans, on va faire que certains musulmans ou personnes d'origine musulmane vont se découvrir musulmanes. Et en ce sens, je crois, mais ma profonde conviction, je peux vous le dire, ce n'est pas un effet de langage, que le combat contre l'islamophobie est bien un combat citoyen, un combat laïque et démocratique. Et qu'un chercheur, ce n'est pas simplement quelqu'un qui doit rester dans son laboratoire à compter des musulmans, à les observer comme on observerait des moustiques ou des araignées malfaisantes, en faisant la distinction entre araignées modérées, araignées radicales, araignées fondamentalistes, mais qu'un chercheur doit aussi des fois prendre la parole pour s'inscrire dans le débat sur la citoyenneté et dans le débat républicain. Je vous remercie.